Alors bonjour à tous. Comme vous l'expliquez Céline, j'ai cru comprendre qu'en fait au départ, il y a certains d'entre vous qui ne parleront que de pognon avec leurs élèves, plutôt des CPCE1, et d'autres qui ne parleront que de chiro, c'est bien ça? Ok. Bon, bah, alors je vais paraphraser Céline, mais on s'est dit qu'en 3 heures, vu que pognon et chiro sont du même réalisateur et que mine de rien, il y a quand même beaucoup de récurrence dans le travail de Miyazaki, c'était intéressant de vous faire un truc un peu plus vaste sur Miyazaki, en prenant comme cas particulier Chihiro, que certains d'entre vous vont étudier, et Ponyo. Donc ça vous va? Ok. Alors moi je suis très content de... C'est pas la première fois qu'on me demande d'intervenir sur Miyazaki, ni dans le cadre des dispositifs, ni dans le cadre de conférences, et je suis très content de le faire, notamment pour des scolaires, parce que quand on fait des formations pour les scolaires, on se rend compte que tous les films, quand bien même ont-ils été sélectionnés par des gens très compétents, ne sont pas toujours tous faits pour tous les publics et tous faits pour des scolaires. Or, s'il y a bien une épine qu'on s'enlève quand on travaille avec Miyazaki, c'est que ça marche très 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 bien avec les scolaires. Et que Miyazaki, non seulement ça marche avec les scolaires, mais ça plaît énormément aux scolaires, et même en amont de quand vous allez leur faire découvrir. Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais peut-être pas tous vos élèves, mais bon nombre de vos élèves connaissent les Miyazaki. Miyazaki, c'est un cinéaste qui a énormément de succès dans le monde entier auprès des jeunes, auprès de la jeunesse. Et c'est toujours comme ça que j'aime bien le présenter. Moi, Miyazaki, j'aime bien en parler, parce que mine de rien, dans le vaste champ de l'offre du divertissement mondialisé, du divertissement populaire et même pop, Miyazaki est l'un des rares, et l'une des très rares alternatives à une domination sans partage sur les imaginaires et le divertissement enfantin, qui est celle de qui? Bah oui, qui est celle de Walt Disney. Et la domination de Walt Disney, vous le savez, hein, elle ne date pas d'hier. J'ai presque envie de dire qu'elle est maintenant centenaire, presque centenaire. Et cette domination, elle est sans partage. Quand je vous dis ça, je vous le dis de manière très contemporaine. Aujourd'hui, quand vos jeunes, vos enfants, vos élèves, mais aussi peut-être vos enfants à vous, vos cousins, vos petits frères et sœurs, j'en sais rien, quel que soit l'âge, vous savez, vos enfants dévore, et j'ai même envie de dire de manière un peu vulgaire, bouffe du Disney à longueur de temps. Pas forcément du Disney, les classiques qu'on connaît tous, pas forcément du Bambi, de la Reine des Neiges, des choses comme ça. Disney aujourd'hui a la mainmise, en tant qu'industriel, sur quasiment, j'ai pas fait d'études de marché, mais la proportion de ce sur quoi Disney a la mainmise a considérablement augmenté ces 10 dernières années. Par exemple, si vos enfants regardent du Star Wars, si vos enfants vont voir Avatar, si vos enfants regardent du cinéma d'animation américain qui a priori n'a pas l'air Disney, dans la plupart des cas, c'est du Disney. C'est produit par Disney. Vous allez me dire, bon, c'est pas... Oui, d'accord, bon, d'accord, Disney produit. Mais le Disney qui produit, c'est Disney qui aussi impose sa marque, impose sa manière de raconter, sa féerie, son imaginaire. Et aucun problème là-dedans. Simplement, quand il n'y a plus que du Disney, eh bien, il y a une forme... justement, de formatage, de conformisme, d'uniformisation de l'imaginaire et de l'offre pour les enfants. Tout ça, c'est des considérations très sérieuses et très adultes. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que l'une des rares alternatives à ça, vraiment, très concrètement, c'est Miyazaki. Miyazaki est l'un des rares cinéastes, et j'ai même envie de dire l'un des rares univers. Vous savez, Disney, on parle presque plus d'un univers. Walt Disney, il est mort en 56. Hein. Donc, vous savez, c'est plus la faute de Walt Disney. Walt Disney, c'est un univers étendu maintenant, un multivers étendu. Eh bien, s'il y a bien un endroit où on peut s'autoriser à comparer un imaginaire à celui de Disney, c'est Miyazaki. Miyazaki, comme vous le savez peut-être, mais sinon je vous le dis, lui aussi a créé son propre studio. Ça s'appelle le studio Ghibli. Il l'a créé avec un autre réalisateur qui est maintenant décédé, mais qui était aussi lui très connu, qui s'appelait Isao Takahata, qui était notamment l'auteur du Tombeau des Lucioles, par exemple. C'est un film qui a très bien marché. Et avec le studio Ghibli, Miyazaki a très vite eu l'intention, eh bien, en un sens, de répondre à Disney. Pas forcément sur le mode de l'opposition frontale, pas forcément sur le mode de la critique, même si, quand même un peu, on va y revenir. Mais il a eu très très consciemment l'intention de proposer un contre-spectacle à celui de Disney, à la féerie américaine occidentale de Disney. Et là, pour ça, pour bien comprendre pourquoi c'est important de commencer par Disney et de commencer avec cette opposition et cette alternative, c'est qu'en fait, pourquoi ça m'intéresse de parler de Miyazaki quand je m'adresse à des profs comme vous aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand on parle de Miyazaki, on parle aussi d'un univers très important pour les jeunes d'aujourd'hui, et Miyazaki en fait partie, c'est l'univers du manga. Vous n'êtes pas sans savoir que vos jeunes, s'ils consomment quelque chose en masse, outre le Disney, c'est le manga. Dans toutes les réalités de consommation que ça recouvre, dans toutes les formes. Bien sûr, le manga papier, tout part du papier. Pour ceux qui ne le savaient pas, je vous le dis, le manga, ça désigne bien sûr un univers étendu de produits culturels, mais tout part d'un petit livre, au format poche, qui raconte des histoires, d'abord plutôt adressées aux enfants et aux adolescents, et qui se sont ensuite réparties tout un éventail de publics. Ça part de ça. Ensuite, ça se décline en séries animées. Les toutes premières, par exemple, c'est Astro Boy, dans les années 60 et 70. Et puis, ensuite, ça se décline en films, et puis même en industrie du cinéma d'animation. Ghibli est totalement une émanation de l'univers du manga. Miyazaki fait partie de cet univers. Je ne dis pas ça en critique, en le resituant dans une perspective, lui-même l'affirme. Miyazaki dit « Je n'aurais rien été si le manga n'avait pas explosé au sortir de la Seconde Guerre mondiale. » Miyazaki commence sa carrière en faisant des films d'animation. En fait, en étant dessinateur, intervalliste, puis peu à peu dessinateur et même réalisateur d'épisodes de films d'animation type, si vous regardiez une série Albator... alors, il n'a pas fait Albator, en l'occurrence, il a travaillé sur des séries qui n'ont pas été achetées en France. Donc, je ne peux pas vous citer des séries sur lesquelles il a travaillé en France. Mais comme s'il était un des dessinateurs de Astro Boy. Il a commencé là. Et surtout, pourquoi c'est important de reparler du manga? Parce que Miyazaki est très conscient d'appartenir à cette époque, tout simplement parce qu'il admire le dieu du manga, la grande figure tutélaire du manga, il y en a une. Le Disney du manga, il existe. Il s'appelle Osamu Tezuka. Tezuka, T-E-Z-U-K-A. Tout part de lui. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas y rester sur le manga, mais c'est important de replacer le contexte pour comprendre toute la démarche de Chihiro, par exemple. Osamu Tezuka, c'est quelqu'un qui, vraiment au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, le Japon est en ruine, c'est le pays de la bombe atomique, souvenez-vous quand même, le Japon est sous tutelle américaine, et qu'est-ce qui se passe? Qui dit tutelle américaine dit bien sûr, on n'a plus d'armée, on n'est plus souverain de notre propre peuple. Mais dit aussi, les Américains, vous connaissez le soft power, les Américains, pour asseoir leur culture et leur manière de gouverner, apportent avec eux du chocolat, des burgers et des produits culturels. Bien sûr, des films, mais aussi, qu'est-ce qui a pu le plus influencer le manga? Des comics. Ils apportent Superman. À l'époque, c'est Superman. Spider-Man n'existe pas encore. C'est pas encore Marvel. C'est plutôt Superman, Batman. On apporte ça. Et donc, des bouquins à deux sous qu'on distribue un peu partout. Et de ça, notre fameux Tezuka, qui a alors 18-19 ans, qui est étudiant en médecine, se met à copier un peu le manga, le comics, mais à sa manière, en s'inspirant aussi de ce qui s'est déjà fait au Japon. Et Tezuka va avoir une productivité toute japonaise, en l'occurrence. Le Japon de l'après-guerre, vous savez ce que c'est en termes de productivité. Ils vont se remettre, se relever de leurs cendres en deux décennies, en fait. Et bien, Tezuka fait partie de cette résurgence du Japon, dans la bande dessinée. Et pourquoi je vous dis que tout ça, c'est très important? Parce que Tezuka, c'est vraiment le noyau atomique, l'origine matricielle de tout le manga, y compris Miyazaki. Je vais vous montrer un PDF, par exemple. Je me suis amusé à vous montrer ce que partage le manga avec la culture américaine, et donc, bien sûr, avec Disney. Parce que la référence numéro un de Tezuka, c'était évidemment Disney. Je vais vous montrer, et d'ailleurs, vous allez pouvoir vous intéresser à un motif, vous savez, sur lequel on a un peu une espèce de réticence. On a longtemps eu une petite réticence culturelle en disant que c'était des dessins grossiers, c'était des dessins trop expressifs. Vous savez, c'est les yeux, par exemple. Les yeux dans le manga, comment on dessine les yeux. Vous allez voir d'où ça vient, les yeux du manga.
Bon, tant pis, j'aurais voulu vous le mettre en plein écran, mais on voit quand même.
Alors, pour vous présenter un peu ce que c'est que tout ça, chronologiquement, Bambi, tout début des années 40. Astro Boy, toute fin des années 50, par ce fameux Tezuka. Tezuka, c'est celui qui a créé Astro Boy et bon nombre de personnages, pour les enfants comme pour les adultes, si bien que c'est officiellement le mangaka, celui qui fait des mangas, c'est un mangaka, le mangaka qui a été le plus productif de toute l'histoire du manga quasiment. Chronologiquement toujours, le Roi Léon, là-bas, fin des années 60, de Tezuka. Et, évidemment, si je vous montre le Roi Léon et que, de toute façon, sans même l'image, vous auriez vite compris que le Roi Léon, ça a ensuite donné lieu à une adaptation, en fait, par les Américains, par Disney, qui est devenu tout simplement le Roi Léon. Pourquoi je vous montre tout ça? Parce qu'en fait, c'est exactement l'ordre chronologique d'influence et d'hérédité. Tezuka était absolument fan, petit garçon Tezuka, il est fan de ce que propose Disney. Comme dans le monde entier, je veux dire, il n'y a pas que les Américains qui ont adhéré à Disney. Tezuka est en pavoison devant le cinéma de Disney. Et d'ailleurs, si vous regardez les yeux d'Astro Boy et de Léo, le petit lion, qui sont évidemment traités sur un mode beaucoup plus schématique, parce qu'en fait, on est dans une hyper-productivité, pas du tout le niveau de sophistication graphique de Disney, mais en fait, les yeux, le graphisme, tout est emprunté à Disney. Tout part de Disney au départ. Mais ce qui est assez amusant, c'est que Disney finit lui-même par s'emparer de cet imaginaire-là. Je vous donne un exemple très concret où il y a vraiment, c'est quasiment un copier-coller, hein, le roi Léo, le roi Lion, c'est un copier-coller. Mais en fait, c'est amusant de voir que le Japon, en s'inspirant de Disney, a fini en fait par rivaliser avec Disney. Aujourd'hui, c'est sûr, culturellement, l'empreinte du manga a dépassé celle du comics. À tel point, alors ça c'est un détail, mais moi qui suis critique de cinéma et qui aime bien scruter les images, je peux même vous le dire, je pense que la principale influence des univers étendus de Marvel dans la mise en scène et dans les univers, c'est en fait le manga. En fait, il y a eu en fait une espèce d'aller-retour. D'abord, vous avez Disney à l'origine, mais après, très vite, les Japonais font ce qu'ils font de mieux. Hein. Ce qu'ils font de mieux, par exemple, avec le business de la moto dans les années 50, 60, 70, avec le business de la puce électronique, avec le business du jeu vidéo, mais aussi avec le business de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'ils copient un modèle et ils finissent, l'élève finit par dépasser le maître. Ça, c'est vraiment la loi du boom économique japonais jusque dans les années 80-90. Tout ça, c'est important, ce boom économique japonais. On va le retrouver avec Chihiro, notamment. Et donc, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte que Miyazaki est parfaitement conscient de cette histoire. Miyazaki, en grand fan de Tezuka, est évidemment un grand fan de Disney. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'en fan, il a suspendu son jugement critique. Ça ne veut pas dire qu'il a tiré des conclusions de cette espèce de phénomène de surenchère, cette relation un peu toxique de surenchère entre le Japon et l'ancien pays qu'il a, mine de rien, détruit et qu'il avait mis sous tutelle, les États-Unis d'Amérique. Il y a un phénomène de surenchère dont Miyazaki, vous allez voir, nous met peut-être en garde. Et c'est peut-être le grand sujet de Chihiro. C'est peut-être, Chihiro, une critique en creux des dérives de cette surenchère et des dérives de cette espèce d'escalade consumériste de la société japonaise. Alors là, vous allez me dire, bon d'accord, nous on a affaire à des enfants d'école primaire, tout ça, on ne va pas pouvoir remettre le contexte. Si, des enfants d'école primaire, ils connaissent très très bien Disney. Vous n'êtes pas obligé de replanter le contexte social et historique. Mais moi, je vous en parle. Comme ça, on désherbe un petit peu d'où vient le manga et que le manga, en fait, fait totalement partie d'une histoire culturelle et que c'est un art populaire, certes, mais qui mérite d'être pris au sérieux comme toutes les autres disciplines, à commencer par le cinéma. Miyazaki vient de là. Il vient de cet art un peu sale, un peu qui souffre d'un délit de sale gueule encore, hein, qui est le manga. Et ce qui est très beau dans cette histoire, évidemment, on y reviendra à la fin de Ponyo, c'est que Miyazaki va évidemment devenir une espèce de maître lui aussi. Il va un peu rejoindre le statut de son maître Tezuka, et même, pourquoi pas, du grand maître qu'est Disney, en devenant, à lui tout seul, et tout son univers, vraiment une référence culturelle majeure, une fois encore, je vous le disais, que vos enfants connaissent. Je vais vous donner un exemple qui paraît anecdotique, mais qui ne l'est pas du tout. Les deux seuls sujets sur lesquels je remplis des salles quand je fais des conférences ou des présentations de films, ou même des formations de profs, ou vos collègues de l'orgue la semaine dernière, on a dû rajouter des chaises tellement ils étaient intéressés par Miyazaki. Les deux seuls sur lesquels ça fait cet effet, c'est Brad Pitt. À chaque fois que je parle de Brad Pitt, j'ai des salles combles. Inutile de vous expliquer pourquoi. Et le deuxième, c'est Miyazaki. J'ai eu à faire une conférence un samedi après-midi dans le cadre d'une rétro Miyazaki dans un cinéma qui s'appelle le Gyptis à Marseille. Le Gyptis à Marseille, c'est dans l'arrondissement le plus pauvre de Marseille. C'est le seul cinéma, c'est Arts et Essais. Je vous laisse imaginer comment c'est difficile quand même de faire vivre une salle Arts et Essais dans un quartier de misère sociale. J'ai fait une conférence là-bas, sur Miyazaki, un samedi après-midi. J'avais une salle comble. Et j'avais une salle comble avec des enfants dont le public commençait à 13-14 ans. Bien sûr, après, j'avais des adultes, on était à une conférence. Mais j'avais des jeunes. Et ensuite, pendant tout le week-end rétro, toute la salle était comble. Miyazaki, c'est ça, hein, comme phénomène. Et c'est signifiant. C'est signifiant parce que, justement, ça nous montre que les enfants, de manière intuitive, comprennent bien que c'est complémentaire avec Disney. C'est une offre à côté. Et ça, ils le saisissent. Ils le saisissent de manière intuitive. Nous, bien sûr, comme on est des adultes et qu'on va faire de l'analyse aujourd'hui, on va comprendre ce qu'il y a derrière cette intuition. Que nous montre Miyazaki? Comment il dialogue avec la culture occidentale et comment il y apporte, en quelque sorte, son point de vue à lui, qui est très alternatif? Et bien pour ça, j'ai envie de dire que la meilleure façon, c'est d'aller dans les films et même de commencer, alors On va commencer chronologiquement, en fait. Chihiro sort en 2001. Ponyo sort en 2008. On va commencer par Chihiro, et ensuite on va aller sur Ponyo. Chihiro, pour vous placer le contexte de sa sortie, pourquoi une fois encore je compare à Disney, c'est le film au Japon qui a le mieux marché de l'histoire du cinéma au Japon. 23 millions de spectateurs quand c'est sorti en 2001. Le film précédent qui avait le mieux marché, ben, le Japon n'a pas du tout échappé à la mondialisation. À votre avis, c'était quoi, 97? Ben oui, Titanic. Le film précédent, c'était Titanic. Le Japon allait voir James Cameron, le Japon allait voir des Spielberg, sauf que 2001, Miyazaki sort Chihiro, 23 millions de personnes. En France, Chihiro fait 1,5 million. Vous n'êtes pas obligé de connaître les chiffres du box-office français, mais c'est important pour un film japonais. Et en fait, c'est le film qui va vraiment installer définitivement l'arrivée de Miyazaki, mais aussi le début de la reconnaissance peu à peu de cet univers-là. On comprend que cet art populaire qui nous arrive du Japon a peut-être des choses à nous dire. Et je vais vous montrer comment Chihiro, c'est très intéressant que ça vienne avec Chihiro. Parce qu'une fois encore, Chihiro, je pense, incorpore une grande part de commentaires sur la société japonaise. Je vais donc vous montrer des extraits. Je vais commencer par le début. Et je vais donc... Tout le monde a vu Chihiro ou seulement les enseignants qui parlent de Chihiro, qui parleront de Chihiro? Qui n'a pas vu Chihiro ici? Ok, bon, vous êtes quand même une minorité. Chihiro, c'est l'histoire d'une petite fille qui est en sixième, qui déménage, et dont les parents, avant d'arriver dans la nouvelle maison, font une pause parce qu'ils découvrent une grande vallée avec une espèce de... Ils émettent l'hypothèse que c'est un parc d'attractions abandonné. Un parc d'attractions à thème, un parc à thème, un peu comme Disneyland, abandonné. Et donc, ils font une pause comme ça, ils vont visiter ce parc d'attractions, et je vais totalement inventer la fiction puisqu'on va l'analyser, désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais en fait, Chihiro va être absorbé dans un espèce de monde parallèle, peuplé d'esprits dans des grandes thermes, dans des grands bains thermaux, à l'adresse des divinités et des esprits, et va vivre une grande aventure. Vous allez la voir, en tout cas, par morceaux. Et donc là, je vais vous montrer un extrait où, c'est pas le tout début, c'est le moment où on arrive dans ce parc d'attractions. D'accord ? On arrive dans ce parc d'attractions et Chihiro est escorté de ses deux parents, son papa, sa maman. Et donc, il y a papa de Chihiro, maman de Chihiro et Chihiro. Ok ? Et ce que je vais vous demander, ce à quoi je vais vous demander d'être attentif, c'est exactement ce à quoi j'aurais demandé à être attentif, d'être attentif à vos propres élèves, c'est-à-dire des élèves de CE2, CM1, CM2. Je leur aurais demandé, une fois qu'ils auraient vu le film et qu'on revient sur cette image-là, sur cette séquence-là, je leur aurais demandé de prêter attention à comment se comporte Chihiro, la petite fille, et comment se comportent ses parents. Qu'est-ce qui diffère? Vous allez voir que tout diffère entre Chihiro et ses parents. Tout diffère. Comment se comporte-t-elle et comment se comporte-t-il? Vraiment, quand je dis se comporter, soyez très attentifs à leur gestuelle, et j'ai même envie de dire à comment ils mobilisent leur sens. Les sens, la vue, l'odorat, comment ils mobilisent leur sens? Et évidemment, comment cette façon de présenter les personnages va être extrêmement intéressante à analyser, et comment on va voir que tout cela conduit au sort des personnages. Comment Chihiro va subir un sort, ou plutôt ses parents vont subir un sort qui n'est pas du tout celui de Chihiro. Regardez bien tout ça, et surtout, regardez comment la séquence nous montre que ce qui va arriver aux parents... Pour ceux qui ne le savent pas, les parents vont être transformés en cochons. Eh bien, regardez, essayez de comprendre comment, juste avant, quand ils n'étaient pas encore des cochons, Miyazaki nous montre qu'ils allaient, de toute façon, ils étaient destinés à être transformés en cochons. Soyez très attentifs à ça, je vous montre donc cette séquence qui intervient au début. Et on va essayer de voir comment on peut faire comprendre à des enfants les enjeux de cette séquence et ce que ça nous raconte. J'imagine que c'est un peu... c'est fort. Rassurez-vous, oui, bien sûr, le film, je crois, est programmé pour des CM1, CM2. Hein. Voilà, on s'est vraiment fait pour des CM1, CM2, pas pour des CPCE. Hein. Je pense que ça peut les marquer. Mais alors, justement, pour des CM1, CM2, c'est quand même très, très fun à analyser Chihiro parce que ça leur plaît, parce que c'est plein de personnages métamorphiques, à commencer par les parents, qui se métamorphosent. Alors, est-ce que vous vous souvenez des petites questions que je vous ai posées au début? Qu'est-ce qui distingue dans la présentation des personnages, et en particulier dans cette séquence? Qu'est-ce qui distingue les parents de Chihiro dans leur comportement? Il y a des choses très signifiantes et très faciles à... très évidentes, que les enfants voient. Là, on le voit d'ailleurs. Bah, lesquels? L'odorat, le goût, principalement. Je veux dire, si je coupe là, c'est pas pour rien. Hein. Je ne voulais pas que ce soit trop long non plus, mais je coupe là, là, ici. Et là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il renifle la nourriture. Sous-entendu, alors oui, peut-être qu'il se comporte, si on veut le dire de manière sympa pour lui, il se comporte comme un espèce de loup qui attire sa meute parce qu'il a l'odorat surdéveloppé, mais il se comporte surtout comme un cochon juste après. Parce qu'il s'autorise à manger alors que personne, justement, ne lui a donné l'autorisation. On a donc un papa et la maman qui, en fait, est plutôt une extension de lui-même. On a un papa et deux parents, en fait, qui se guident avec le groin, en fait, hein, avec la truffe ou le groin, et qui donc sont en train, Miyazaki est en train de nous dire qu'ils se comportent déjà, en fait, comme des cochons. On est d'accord jusqu'ici. Ça, les enfants le voient très vite. Et ce qui est très intéressant, évidemment, c'est de voir la différence de comportement avec Chihiro. Chihiro, elle se comporte comment? Je vous pose des questions comme si je les posais à des enfants, bien sûr. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous prendre pour des enfants pendant toute la conférence. Je vais après en déduire des choses avec vous et vous vous emparer de ce qui vous intéresse pour vos jeunes. Mais donc, Chihiro, elle se comporte comment?
Elle est
sur la défensive.
Sur la défensive,
ouais. Elle observe. Donc, s'il y a plutôt un sens qu'utilise Chihiro plutôt que d'autres, ce serait lequel?
La vue.
Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très intéressant aussi qui va dans le sens de ce que je suis en train de vous faire observer, c'est comment Miyazaki a dessiné ces personnages. Comment sont dessinés les parents, comment est dessiné Miyazaki? Comment, ou plutôt dessiné? Oui, comment il les représente? Comment sont représentés les parents et comment est représenté Chihiro? Les yeux ne sont pas les mêmes, ouais. Je dirais que c'est quand même assez subtil, mais oui, je suis d'accord. Les yeux des parents, on les voit presque pas, en fait. Les yeux de Chihiro, ils sont pas non plus immenses comme dans Astro Boy ou dans Bambi, mais on a quand même, Chihiro a des yeux, et surtout, comme vous le dites, Chihiro n'est que ses yeux, en fait. Elle ne fait usage que de ses yeux dans toute cette séquence. Littéralement, elle refuse de manger. Donc elle refuse de faire usage de sa bouche pour manger. L'odorat, elle n'est pas particulièrement sensible, en tout cas pas comme ses parents. Et même quand ses parents se guident à l'odorat, elle ne cesse d'avoir des mouvements gératoires et de regarder tout autour d'elle. Un peu comme si elle pressentait qu'il y avait quelque chose d'inquiétant là-dedans. Donc, j'en reviens à ma question, comment Miyazaki dessine les parents, comment Miyazaki dessine Chihiro? Elle est comment Chihiro par rapport à ses parents? Beaucoup plus maigre. Beaucoup plus maigre. Son corps est même littéralement, un peu, vous savez, disparaît sous son grand t-shirt. Alors qu'il est vraiment une marque plutôt vraisemblable de comment s'habiller les ados au début des années 2000 avec des grands t-shirts. Mais surtout, ça a un intérêt, c'est de nous cacher son corps. Chihiro n'est pas quelqu'un dont le corps nous dit qu'il a tendance à manger comme ça. Si vous regardez les parents, la proportion de la tête par rapport au ventre, par rapport aux membres, n'est pas du tout la même. Et qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient dire, bien sûr, que les parents se comportent avec leur groin et leur truffe comme des gens qui ont l'habitude que les choses leur soient dues. J'ai ma carte, souvenez-vous ce que dit le papa quand il dit « Non, mais il n'y a pas de vendeur, mais t'inquiète pas, j'ai ma carte de crédit. » Habitude, facilité de consommation. C'est devenu une habitude pour quelqu'un comme le papa de Chihiro, qui après tout n'est qu'un bourgeois japonais, voilà, du début des années 2000, qui apparemment fait plutôt fortune dans ce qu'il fait. Je ne vous l'ai pas dit, mais au début du film, il roule dans une berline qui est une Audi, une voiture européenne. Tous les détails sont importants. Donc il a un certain train de vie, et puis avec ce train de vie, il y a certaines habitudes, et pourquoi pas certains privilèges. En tout cas, il a incorporé qu'il avait le droit de manger où il voulait, parce qu'il a une carte de crédit, il a une Amex, quoi. Bon. Chihiro, non. Chihiro n'est que tête. Elle n'est que tête, et elle n'est que yeux. Or, toute la séquence, qu'est-ce qu'elle vise à nous montrer? Qu'il y en a qui mangent, qui reniflent, et il y en a une qui voit. Littéralement, ça c'est l'enjeu de la séquence. Vous montrez que Chihiro, si elle ne mange pas et si elle ne renifle pas, c'est parce qu'elle voit. Et donc, avec l'idée de voir, vient peut-être l'idée d'être un peu plus voyant que les autres. Littéralement. À la fin de la séquence, qu'est-ce qui se passe? Elle voit apparaître des esprits, des ombres, des espèces de spectres. Et de sa famille, c'est la seule qui les voit. C'est la seule à qui apparaît cette réalité-là, un peu parallèle. Elle est voyante, Chihiro. Elle n'était que yeux et que regard, mais parce qu'en fait, le film lui réservait comme privilège à elle de voir des choses que ses parents ne voient plus. Là, on va rentrer dans une règle générale du cinéma de Miyazaki. Chez Miyazaki, les enfants sont des voyants. Ceux qui voient le plus, ceux qui découvrent le plus, ceux qui sont en vérité les plus sages et qui apprennent aux autres, même aux adultes, ce sont les enfants. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles c'est si populaire auprès des enfants aussi. Mais chez Miyazaki, les enfants sont les vrais voyants de l'histoire. Et Chihiro est peut-être le film le plus exemplaire de cette règle générale. Vous allez voir que c'est aussi le cas dans Ponyo en quelque sorte. Mais donc, Chihiro voit. Elle voit des esprits. Elle voit des esprits et des divinités. En tout cas, on va comprendre que ce sont des divinités que ses parents ne voient plus. Et là, c'est très important de collecter tous ces indices pour essayer de comprendre ce dont va nous parler le film. Je récapitule. Vous avez papa qui roule en Audi, qui a une carte de crédit, qui s'autorise à bouffer tout et n'importe quoi. Vous avez Chihiro qui est beaucoup plus circonspecte, flippée, hein, frileuse, hein, elle n'ose pas. Là, c'est pas du tout brave, hein. Elle n'est pas dans un rapport de bravoure, elle n'est pas dans un rapport d'intuition héroïque, elle a juste peur. Mais au moins, elle ne mange pas, et elle ne se comporte pas comme son père. Et donc, son père, qu'est-ce qu'il pourrait potentiellement incarner dans un parc d'attractions désaffecté, où il s'autorise à manger tout et n'importe quoi, comme dans un buffet à volonté, dans un fast-food? Eh bien, il incarne peut-être des dérives contre lesquelles Miyazaki nous met en garde. Peut-être les dérives d'une société dont on est en train de cerner quels seraient ses excès. Excès de cette surenchère consumériste. Excès, peut-être même vanité, de ce Japon qui, fort de sa croissance économique, fort de son pouvoir d'achat, se croit un peu tout permis, y compris celui d'oublier ses racines, d'oublier son identité, d'oublier qui il est. Littéralement, les parents passent d'êtres humains, de créatures humaines, à cochons. Peut-être que le grand sujet du film tient dans cette transformation. Peut-être que le grand sujet du film, peut-être que ce contre quoi Miyazaki nous met en garde, et surtout le jeune public, public un peu de l'âge de Chihiro, c'est que le grand péril de cette fuite en avant dans le consumérisme, dans la mondialisation, dans « je peux tout, j'ai tout parce que j'ai du pouvoir d'achat », c'est peut-être la perte de son identité. Peut-être qu'il est en train de nous parler d'aliénation, Miyazaki. Et je vous le dis, il n'y a plus vraiment de secret, c'est évidemment le grand sujet du film. Garder de vue sa propre, son identité propre. Ne pas s'aliéner à des comportements dans lesquels on oublie le rapport à soi. Ça paraît très abstrait, mais vous allez voir que tout va devenir extrêmement concret au fur et à mesure des découvertes des personnages et des métaphores. Ici, vous êtes vraiment dans un récit d'apprentissage. Mais j'ai presque envie de dire, pour le public adulte, de réapprentissage. De réapprentissage à ne pas s'oublier, culturellement, mais aussi individuellement. Les parents sont devenus des cochons. Ils sont devenus à l'image du comportement qu'ils adoptaient jusqu'ici. Miyazaki, non, elle voit. Qu'est-ce qu'elle voit? Des esprits et des divinités. Et qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, Miyazaki? Peut-être qu'avec cet accroissement de confort matériel, des choses se sont appauvries. Et peut-être que parmi ces choses qui se sont appauvries, c'est la vie spirituelle. Et pourquoi ce que voit Chihiro, que ne voyaient pas ses parents, ce sont des spectres? Eh bien, littéralement, parce que la première chose qu'on oublie, ce sont les autres divinités, toutes les divinités qui peuplaient votre culture, et toutes ces divinités auxquelles plus personne ne croit. Et peut-être que ces divinités auxquelles plus personne ne croyait viennent se réfugier quelque part. Pourquoi pas dans des bains thermaux, on leur fait des gros massages dans des jacuzzis. C'est littéralement l'histoire de Chihiro. Et vous allez voir que Chihiro, comme elle les voit, peut-être que Chihiro va apprendre non seulement à rester intègre à elle-même, dans son identité, mais aussi, en quelque sorte, à respiritualiser sa vie, à mettre un peu plus de spirituel. Spirituel vraiment au sens très très large, vous allez voir que chez Miyazaki, ça ne veut pas du tout dire enfermé dans une religion, spirituel au sens délirant, c'est juste respiritualiser, c'est-à-dire remeubler sa vie intérieure et aussi l'espace de sa réflexion et de sa conscience de soi. C'est très moral et presque philosophique, hein, bien sûr. Et vous allez voir où ça nous amène. Et vous allez voir que jusqu'à Ponyo, on va parler de tout ça. Mais j'ai envie de vous montrer avant quand même quelque chose de très différent avec les autres personnages de Miyazaki, ce qui est très important dans Chihiro, et c'est la première fois, c'est que Chihiro n'est pas présenté comme un personnage d'Amazon. Vous savez, Miyazaki, il aime beaucoup mettre en avant des personnages féminins, souvent jeunes, souvent pré-ados. Je pense à Nausicaa et la Vallée du Vent, je pense bien sûr à Princesse Mononoké, le film d'avant. Je pense à Kiki, la petite sorcière, qui certes est une petite sorcière enfant, mais qui n'en a pas moins des pouvoirs magiques, et donc qui est très courageuse et brave. Il a tendance à mettre en avant des personnages féminins, mais braves, plutôt des Amazones, des Naïades. Chihiro, pas du tout. Chihiro, c'est une petite fille ordinaire du Japon du début des années 2000. Je vais vous montrer un comparatif, par exemple, avec les autres personnages un peu canoniques de Miyazaki, iconiques.
Comment on grandit ça? Là, non, je pense pas.
Si vous voyez comment...
En bas à droite.
En bas à droite, ici
ouais.
Non, mais ça, ça va juste rapprocher. Je vais faire plein d'écran, moi.
En haut à droite.
Bon, c'est pas grave, là, vous voyez, c'est pas grave. C'est pas grave. Pour ceux qui ne connaîtraient pas sur le bout des doigts Miyazaki, là, vous avez Nausicaa et la vallée du vent en haut à gauche, Kiki et la petite sorcière en haut à droite. Mais en fait, moi, je voudrais que ce soit vraiment plein écran, comme quand on fait aperçu sur les... Mais j'ai pas vu cette appli. Mais c'est pas grave, laisse celui dont on voit, franchement, c'est pas grave. L'écran est grand. En bas, vous avez Princesse Mononoke, la plus badass de tout le registre Miyazaki. Et juste après, bah c'est marrant, c'est le film d'après, et vous avez le personnage le moins proche de Princesse Mononoke qui est Chihiro. Chihiro, elle est carrément, elle est chouineuse au tout départ, hein, elle est géniarde, pleurnicheuse, pétocharde. Et pourquoi Miyazaki la représente comme ça? Parce que Miyazaki s'adresse à quelqu'un. Il s'adresse au Chihiro du début des années 2000 de sa propre société. Miyazaki, c'est quelqu'un qui adresse toujours ses films. Celui-là est vraiment une mise en garde, un peu sur le mode du conte moral. Vous savez comment les contes moraux nous traumatisent pour mieux nous mettre en garde sur les dangers de la vie. C'est la fonction du conte moral pour enfants. Ce conte-là s'adresse au Chihiro. Attention à suivre un peu vos parents dans l'Éden consumériste et ses illusions. Attention à ne pas devenir vos parents. Attention à ne pas rester conforté, loti, dorloté dans votre confort. Vous avez la voiture derrière. J'ai dit Audi, mais c'est peut-être Mercedes. Non, en gros, c'est allemand, c'est européen. Attention de ne pas rester sur la plage arrière de votre voiture, dorloté dans le chauffage et dans les sièges chauffants. Faites l'épreuve de certaines choses. Et l'idée est venue à Miyazaki, c'est une anecdote qu'il a répétée en interview, l'idée du film est venue à Miyazaki lors de vacances qu'il passait après Princesse Mononoke. Miyazaki, comme beaucoup de cinéastes, il charbonne pendant 4 ans et après il faut qu'il se repose, un peu comme les dieux, vous savez, dans la station thermale. Après, il faut qu'il se repose pendant 6 mois. Et donc, il a passé des vacances justement sur l'île dont il s'est inspiré pour Ponyo, on verra tout à l'heure. Mais donc, il fait des vacances là-bas, il loue une maison avec des amis et il y a notamment des amis de sa nièce qui ont l'âge de Chihiro. Et il les voyait tout le temps sur les jeux vidéo, tout le temps. Enfin bref, c'est un point de vue de. Un petit peu, ça reste entre nous. Hein. C'est un peu le point de vue du vieux con sur la jeunesse qui ne comprend pas pourquoi elle se comporte comme ça. Mais donc, il a envie de lui parler à cette jeunesse. Et il voulait absolument que Chihiro soit un personnage ordinaire. Pour la première fois, il voulait d'un personnage ordinaire. Dont il allait faire éclore, évidemment, la bravoure pendant sa quête initiatique, pendant son voyage. Pourquoi? Parce que là, ce n'est pas propre à Miyazaki, c'est un proverbe. Les voyages forgent la jeunesse. Et ça appelle, c'est une très bonne traduction, que le voyage de Chihiro. C'est vraiment un voyage intérieur et c'est vraiment un voyage qui va faire grandir Chihiro tout en lui apprenant que l'enjeu pour elle, petite japonaise du début des années 2000, c'est de rester intègre à elle-même. Bon. Et je vais vous montrer comment il l'a fait grandir Chihiro, avec tout un tas d'épreuves, et je vais vous montrer la toute première. Je vous passe les détails, vous voyez le film, mais en gros, on lui demande d'aller voir un personnage qui peut éventuellement l'aider, lui porter secours, pour travailler dans ces grands bains thermaux qui sont en fait... régenté par une sorcière, Yubaba, qui fait très peur. Donc avant d'affronter Yubaba, on lui dit va voir Maître Kamaji, qui est tout à la racine de cette grande industrie, puisque c'est celui qui s'occupe de la salle des machines et de la salle du charbon. Elle va donc aller voir un personnage qui est censé lui apporter de l'aide, et vous allez voir, c'est un personnage qui est quand même un peu intimidant au départ. Et tout l'intérêt de la séquence, et c'est pourquoi je la sélectionne, c'est évidemment de faire subir une épreuve au personnage de Chihiro, mais aussi, surtout, de lui faire subir une rencontre très surprenante d'un personnage qui va assez vite briser, déchirer le voile des apparences. Et vous allez voir qu'en fait, c'est une règle dans tout le film. Chaque fois que Chihiro rencontre un personnage, on se rend compte que le personnage va se présenter sous une apparence, mais même sous un comportement qui va très vite, et souvent même dans le film, être démenti. Vous allez voir que tout l'enjeu de cette séquence, c'est de vous montrer que les personnages chez Miyazaki ne sont jamais ou bons ou mauvais. Les personnages ne subissent jamais la loi d'une essence, d'une substance ou d'un comportement, par exemple, que rappellerait leur physique. Si leur physique est plutôt laid, ça ne veut pas dire qu'ils sont d'une laideur morale. Tout l'enjeu est justement de jouer sur cette métamorphose et cette incertitude autour des personnages qui vont graviter autour de Chihiro. Évidemment, tout l'enjeu aussi est de montrer que Chihiro va certes évoluer, mais elle va rester ferme à son essence. Donc je vais vous montrer cette séquence, elle rencontre un personnage un peu surprenant et même intimidant. Est-ce qu'on peut remettre la lumière peut-être? Allô? Christian? Ouais, est-ce que tu peux remettre la lumière? Merci Christian. J'aurais pu vous parler dans le noir, mais bon. Scène très très intéressante parce qu'elle est évidemment, comme dans toutes les... C'est très riche, hein, c'est un film très riche. C'est un cinéma très riche, c'est un film très riche, donc une scène très riche. Elle a plusieurs enjeux. Il y en a deux principaux. Le premier, c'est évidemment, il est développé, il est mis à jour par une métaphore très belle qui est celle du baptême du feu. C'est un baptême du feu pour un personnage qui, souvenez-vous, sort, est accouché par une Mercedes très confortable, sous l'autorité parentale, qui apparemment sont d'un certain niveau de vie, et d'un coup, elle est plongée dans un monde d'adversité où on lui demande de travailler. Et d'ailleurs, littéralement, se déroule sous ses yeux un tableau de travail particulièrement physique, particulièrement servile, où on a des individus qui semblent être les maillons les plus petits d'une chaîne qui consiste à chauffer des bains et à accueillir des invités prestigieux. Là, vous êtes à ceux qui font, qui remplissent la machine de charbon, et donc des petites créatures qui deviennent elles-mêmes à l'image de leurs propres tâches. C'est un baptême du feu par le travail. Il y a donc cet enjeu de faire travailler le personnage et de lui faire comprendre que c'est peut-être par le travail, par le labeur, qu'elle va s'épaissir et gagner en valeur. Bon, il y a aussi un autre enjeu qui est très propre à Miyazaki et vraiment propre à Chihiro, qui est de vous montrer que les personnages de Chihiro ne seront jamais déterminés par une essence. Les personnages dans Chihiro, et je dis bien tous les personnages du voyage de Chihiro, même les plus a priori vilains, méchants, intimidants, tous les personnages, aucun personnage n'est jamais prédestiné, assigné par sa laideur ou sa beauté physique à servir le camp du bien ou du mal. Jamais. Il y a chez Miyazaki un vrai refus du manichéisme à l'occidental. Vous savez, le manichéisme, c'est de dire qu'il y a des personnages qui sont dans le camp du bien et des personnages qui sont dans le camp du mal. Blanche-Neige est une pauvre victime de la méchante belle-mère qui d'ailleurs finit, vous savez, par devenir, dont le physique finit par épouser la laideur morale du personnage. Nous ne sommes pas du tout dans cet univers. Et je trouve que la présentation du maître Kamaji que vous avez vu là est un très bon exemple. Au début, on arrive avec Chihiro face à une scène qui est, je pense qu'on peut la qualifier de cauchemardesque. On vous dit que quelqu'un va vous aider, cette personne a 8 bras, 3 bras, elle est arachnéenne, perchée sur sa machine, elle ne vous calcule pas, elle est plutôt intimidante, même elle vous parle de manière un peu rustre, agressive, et à la toute fin, qu'est-ce qui se passe? C'est un soutien. C'est quelqu'un qui vous donne un coup de pouce, un peu comme un grand-père ou un tonton super sympa. Vous avez donc un personnage qui est passé du cauchemar à une valeur positive. Et tout le film, pendant tout le film, les personnages n'ont jamais cessé de répondre à cette espèce d'ambivalence, à cette espèce de météo versatile, où les personnages peuvent être à la fois, à un certain moment, les pires opposants, et à un autre moment, vos meilleurs amis, vos meilleurs alliés. Et c'est justement ce qui est le plus intéressant, c'est que c'est justement cette versatilité, ce changement physique, moral, je dis physique parce qu'en fait tous les personnages changent littéralement de forme dans Chihiro. Il y en a qui sont des dragons, puis qui sont des êtres humains, par exemple. Le personnage qui vient l'avertir d'un danger au tout début, vous savez quand ses parents vont se transformer en cochon, qui a une espèce de coupe comme ça, un peu au carré, qui s'appelle Aku, en fait c'est aussi un dieu de la rivière qui va se transformer en dragon. Tous les personnages sont toujours métamorphiques comme ça. Et justement cette métamorphose, sous ces dehors fantastiques et spectaculaires, féeriques, en fait je trouve que ce qu'il y a de très beau, c'est qu'ils révèlent justement ici ce qu'ils ont de profondément humain. Ils sont humains comme nous sommes toujours changeants. Et comme nous sommes toujours en proie au doute et à la versatilité de notre environnement. Si il lui parle de manière un peu rustre au début, c'est que ce personnage a besoin de faire tourner une industrie en compte sur lui. Et s'il il se relâche juste après, c'est parce qu'il est pendant sa pause déjeuner et qu'il n'est plus le patron au fouet, avec le contremaître au fouet de ses petites noiraudes. Les choses sont changeantes et c'est justement ce qui va les rendre humains, ces personnages. Et je vous disais une fois encore que l'enjeu là-dedans, c'est vraiment de se démarquer du manichéisme des contes occidentaux. Nous ne sommes pas dans un conte occidental, nous sommes chez Miyazaki. Ici, personne n'est bon, personne n'est mauvais. Je pense que c'est l'une des grandes différences du cinéma de Miyazaki avec la féerie à la Disney. Ça n'est pas la seule, et vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Mais c'est l'enjeu de cette séquence, et je pense que ça, les enfants peuvent le comprendre très très facilement. En jouant à ce jeu, comment on découvre le personnage de Maître Kamaji en quittant la séquence. Vous avez vu la séquence, je la coupe quand elle ferme la porte. On ferme littéralement la porte d'un extrait. Comment quitte-t-on ce personnage? Est-ce qu'il est aussi effrayant qu'au début? Non, il ne l'est plus. Et vous allez voir que ça va être le cas pour tous les personnages, y compris, je vous citais Blanche-Neige tout à l'heure et la méchante belle-mère, qui est un peu une sorcière. Eh bien, tous les personnages vont subir ce sort, y compris celle qui rassemble toutes les conditions pour incarner le grand méchant. Vous savez, Yubaba, cette fameuse sorcière qui gère les bains et l'industrie des bains. Eh bien, on va faire sa rencontre à Yubaba. Et vous allez voir que d'une certaine manière, Yubaba non plus n'échappe pas à cette espèce de ambiguïté, cette ambivalence, ce climat changeant toujours des personnages. Yubaba, vous allez voir, est extrêmement intimidante. Elle est filmée comme telle. Elle a une énorme tête, elle est disproportionnée. Elle a énormément de pouvoir et ça va vous être montré tout de suite. Mais, en quelque sorte, dans la même séquence, vous allez voir que Yubaba n'est pas moins vulnérable que les autres. Quelle vulnérabilité? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce qu'elle symbolise? Là encore, souvenez-vous qu'on est toujours dans un film qui prend soin de dédoubler toujours l'interprétation qu'on peut tirer d'un personnage. Il y a toujours, bien sûr, le personnage dans le... qui est un personnage de la fable, une sorcière. Et pourquoi pas ce qu'elle pourrait symboliser, ce qu'elle pourrait incarner. Yubaba incarne quelque chose. Souvenez-vous, Yubaba, je l'ai présenté, c'est la patronne d'une industrie dont vous venez de voir les maillons les plus élémentaires, les plus inférieurs. Là, vous allez voir la chef, la supérieure number one. Je termine quand même par ce personnage-là qui, encore une fois, pour vous prouver que rien n'est jamais figé dans une essence, ce que j'aime bien avec ce personnage, c'est que son propre rapport à son travail rappelle là encore toujours l'ambivalence des personnages et des choses. Il est à la fois servile et souverain. Il est à la fois servile à sa machine, vous ne le verrez jamais ailleurs que sur sa machine, il est un peu soudé à sa machine, il est son métier, et en même temps il est parfaitement souverain de son savoir-faire. Sans lui, l'industrie ne fonctionne pas. Tout fonctionne comme ça, de manière clignotante, changeante. Rien n'est jamais figé dans son essence. Et vous allez voir que c'est évidemment toute la quête du film que de vous montrer que l'important, c'est de savoir garder en tête qui l'on est. Tout se résout et s'articule autour de la notion d'identité. Et c'est le deuxième enjeu de la séquence que je vais vous montrer. Vous montrer bien sûr qu'aucun personnage ne répond par son physique à un camp du bien ou du mal, mais aussi vous montrer que tout l'enjeu pour Chihiro va être de conserver son identité. Le titre original du film, c'est pas Le Voyage de Chihiro, c'est Chihiro Tosen. Chihiro Tosen, je ne maîtrise pas le japonais, mais j'ai appris ce que ça voulait dire, ça veut dire de Chihiro à Sen. Et en fait, c'est un autre prénom. Et vous allez voir à quel moment Chihiro va devenir Sen. Et vous allez voir quel est tout l'enjeu de ce changement de prénom. Souvenez-vous, l'enjeu du film est de conserver son identité, garder en mémoire d'où l'on vient et ce que l'on est. Ne pas se dissoudre dans des comportements extérieurs. Je vais donc vous montrer tout ça avec la séquence de la rencontre avec la sorcière Yubaba. Bon, je pense qu'à la lumière des séquences précédentes, vous commencez à voir se dessiner vraiment le propos et ce contre quoi nous met en garde Miyazaki, puisque les choses reviennent. Là, vous avez évidemment constaté que tout l'intérêt de cette séquence est de mettre en garde sur le péril qu'il y a à perdre son identité profonde. Changer le nom de quelqu'un, littéralement passer de Chihiro à Sen, c'est la dépouiller de ce qu'elle était. Là, l'inscrire dans, littéralement, là, c'est ce qui se passe, hein, l'inscrire dans l'industrie, la faire travailler au titre de simple rouage et la dépouiller de ce qu'elle était avant d'entrer dans ce bureau-là. Et c'est littéralement comme ça que le personnage de Yubaba traite avec ses subalternes. Ils ne sont pas des semblables, ils ne sont que des employés, des éléments d'un rouage. Qu'est-ce qui nous montre ça? Et c'est d'ailleurs très beau parce qu'il y a deux, ça nous permet de caractériser, avant même de l'avoir vu, le personnage, c'est quand elle amène Chihiro dans son propre bureau. On constate d'une part qu'elle a d'énormes pouvoirs, elle est capable de vous mouvoir à volonté, et elle ne lui demande pas son avis, elle la dirige comme un pantin. Vous êtes ici face à l'incarnation d'une espèce de patronat tout-puissant qui incarne bien sûr des dérives de la société moderne, noyée dans le productivisme et dans l'idée de produire toujours plus. Bien sûr, ce qui caractérise Yubaba, c'est ses pouvoirs, mais c'est aussi que quand vous la rencontrez, elle est en train de tenir ses comptes, compter son argent, elle a des signes extérieurs de richesse. Elle est la patronne, mais d'un commerce qui prospère. Elle est un petit peu, bien sûr, à l'image de ce Japon tout entier dévoré par sa quête productiviste. Et elle fait travailler tout le monde et elle finit par ne plus voir ses subalternes comme des éléments de sa propre industrie. Pour Chihiro, l'enjeu sera de ne pas perdre, de ne pas oublier que de Sen, elle partait de Chihiro. Très bien. Mais c'est là que je trouve que la séquence est très belle, c'est que vous êtes face à un personnage terrifiant, presque encore plus terrifiant que le maître Kamaji de juste avant. Elle a une tête démesurée, d'ailleurs, Miyazaki vous montre quand elle se présente face à Shiro, qu'elle s'avance comme ça et qu'elle envahit le cadre jusqu'à ce qu'on arrive vraiment sur des éléments les plus disgracieux de son visage, on vous montre qu'elle est effrayante. Mais juste après, on constate qu'exactement comme maître Kamaji et comme tous les personnages dont vous allez faire la rencontre dans le film, elle non plus n'échappe pas à cette versatilité des caractères. Mine de rien, Yubaba que vous venez de rencontrer, vous venez aussi de la voir la plus vulnérable du monde. Pourquoi ? Parce que Yubaba, vous avez aussi vu qu'elle est mère. Et elle est mère d'un bébé démesuré. Pourquoi il est démesuré ? Parce que c'est évidemment à l'image et à la proportion de l'attention qu'elle lui confère. Les enfants sont d'abord en quête d'attention et un nourrisson est en quête d'attention. Il y a ici une très belle métaphore que, certes, Yubaba est la chef et la patronne un peu cruelle d'une industrie qu'elle fait tourner au fouet, mais c'est aussi une mère qui, dès lors que son enfant arrive dans le tableau, redevient minuscule. C'est le jeu des proportions qui est intéressant. C'est de voir que Yubaba a envahi l'écran juste avant et que juste après, elle est rendue à la petitesse de ce qu'elle incarne face à son propre enfant et surtout face à l'amour maternel démesuré qu'elle a pour son bébé. Tout est toujours vulnérable, tout est toujours versatile. Et surtout, vous allez le voir plus tard dans le film, Yubaba n'est pas cruelle et méchante par essence, elle est plutôt déformée par le système oppressif de sa propre industrie. Elle est plutôt déformée par son univers, elle est plutôt déformée par le productivisme sévère et un peu aliénant. Elle est déformée par son business, en quelque sorte. Et Yubaba n'est pas méchante par nature. D'ailleurs, elle a une sœur jumelle, je n'aurai pas le temps de vous la montrer dans les extrêmes, elle a une sœur jumelle qui est son envers de simplicité et de bonté, et Yubaba elle-même va retenir les leçons du passage de Chihiro dans son univers. Tout est toujours ambivalent, changeant, jamais manichéen. Et bien sûr, sur tout le feuilleté de petites leçons de vie et de morale que nous enseigne Miyazaki, la première relève de l'identité profonde. Mais attention à ne pas faire de raccourcis et surtout à ne pas associer Miyazaki autour de cette question de l'identité, attention à ne pas trop vite associer Miyazaki à une forme de conservatisme. Sachons garder notre culture, sachons rester retranchés derrière les parois de ce qui est vraiment nous, ce qui nous appartient à nous, et pas de l'extérieur. Miyazaki n'est pas du tout un conservateur au sens politique. Miyazaki met simplement en garde contre les dérives d'une mondialisation qui dissout, qui nous fait oublier d'où nous venons. Mais Miyazaki, et l'affirme ici, va évidemment puiser à tout un tas d'univers partout dans le monde. Ici, vous êtes à la croisée d'Ansel et Gretel et de Lewis Carroll. C'est quoi le conte le plus proche, après tout, du voyage de Chihiro ? Ce à quoi il ressemble le plus ? Une petite fille qui va connaître, en passant presque de l'autre côté du miroir, Alice au Pays des Merveilles, bien sûr. Vous n'êtes pas très loin du non-sens de Lewis Carroll. Vous n'êtes évidemment pas très loin d'Ansel et Gretel. Vous êtes ici face à une sorcière, en un sens, à l'occidental. Miyazaki n'est pas dans un rapport conservateur à la question de l'identité. Il est juste dans un rapport initiatique. Vous êtes face à une préadolescente, à un moment charnière de sa vie qui doit apprendre d'où elle vient et ce qu'elle va devenir. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous allez voir que tous les personnages autour d'elle, plus on avance dans la fiction, plus les personnages autour d'elle sont des espèces d'antagonistes. Là, je vais vous montrer les deux séquences d'affilée. Je vais vous montrer deux séquences d'affilée pour aller plus vite, et vous allez voir qu'en fait, elles sont très proches. Il y a une séquence autour d'un dieu putride qui arrive dans les bains sous une apparence, je vais utiliser le terme parce que c'est le cas, il nous est montré par le film, sous une apparence excrémentielle. Vraiment, il est recouvert de déchets. Et vous allez voir ce qu'il va advenir de ce personnage-là, une fois que Chihiro en aura fait la rencontre. Et puis ensuite, vous allez voir un autre personnage assez proche justement dans son gigantisme, assez proche dans cette dimension burlesque, un peu rabelaisienne, d'un personnage qui ingurgite, qui se fait des orgies alimentaires, si bien qu'il devient lui-même, il grossit, et il devient un peu, vous savez, comme la vache, le bœuf, pardon, de la fable de La Fontaine, il ne cesse de grossir, jusqu'à bien sûr tendre un miroir inversé à Chihiro, qui, elle, apprend par le travail une forme de modestie et d'éthique de la modération. Ce personnage, le deuxième que je vais vous montrer, il s'appelle Sans Visage. Sans visage, sous-entendu, sans identité, sans nom. Et justement, il a pour particularité d'absorber des gens et de prendre leur voix, de prendre leur attitude. Et en absorbant, de se dissoudre donc, ou plutôt de mélanger, de se métamorphoser dans les autres. En fait, il absorbe tout. Il a un rapport purement de voracité au monde. Évidemment, vous allez voir que c'est un antagone, c'est évidemment un opposé de Chihiro. Je vais vous montrer les deux et vous allez voir de quoi nous parle encore sur le mode de la fable. Le voyage de Chihiro, et comment ça peut évidemment parler à des enfants d'aujourd'hui. Parce que Miyazaki, si on l'aime tant, c'est bien sûr parce que c'est un génie du cinéma d'animation, mais aussi parce que 20, 40, 30 ans en arrière, il nous parlait déjà de choses qui aujourd'hui sont devenues très contemporaines, très brûlantes, et qui concernent les enfants. Vous allez voir que c'est surtout autour du dieu putride que ça les concerne, puisqu'il s'agit bien sûr de préserver l'environnement. Je vais vous montrer ça, je vous montre les deux séquences, donc là on est parti sur 10 minutes d'extrait. A tout de suite. C'est trash un peu. Hein. Moi, je crois que c'est pour ça qu'ils aiment, que les enfants aiment en fait Miyazaki. C'est pour ce trash-là. Je pense que c'est pour cette outrance et cet explicite qui est propre, non pas seulement à Miyazaki, mais je pense à tout le genre, tout l'art dont il est maître, qui est le manga. Le manga montre, assume de montrer des choses, d'exagérer des choses que la bande dessinée, la féerie occidentale ne montre pas autant. Je pense que ça, ça intéresse les enfants, à un âge adapté, bien sûr. Mais ils aiment bien qu'on ne leur parle pas comme à des enfants, mais qu'on leur montre des choses un peu interdites. Et justement, la scène du dieu putride est géniale pour ça. Déjà parce qu'elle nous rappelle, une fois encore, qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Sous une montagne de déchets excrémentiels se cachait une divinité, le dieu de la rivière. Et bien sûr, les enfants, la métaphore est limpide, ils comprennent très vite qu'il est l'incarnation d'une nature polluée, ensevelie sous les dérives matérielles, bétonnées, d'un monde qui n'a... Qui a rangé au dernier chef de ses considérations la nature et la préservation de l'environnement. Il est bien sûr ceci, le dieu putride. Et il devient, à la toute fin, il prend une forme d'un blanc immaculé et féerique et merveilleux qui n'a évidemment rien à voir avec le tas de boue dans lequel il arrive. Vous avez vraiment cette idée que, bien sûr, Miyazaki, ce n'est pas le seul film. Hein, Miyazaki a toujours porté un regard très sévère sur la façon dont l'homme détruisait son environnement. Mononoke, le film d'avant, est évidemment peut-être le plus incisif et le plus offensif sur cette question-là, puisque c'est une forêt qui est appauvrie. Mais il y a bien sûr cette dimension écologique, mais il y a aussi toujours, souvenez-vous, les choses ne se résument pas toujours à un enjeu, il y a aussi l'idée que ce dieu-là, s'il vient à ce moment-là, dans ce palais-là, pour retrouver sa forme initiale, à travers, mine de rien, une quête qui avait une mission, qui avait une morale, une leçon, c'était que le collectif, l'union fait la force. Quand elle est au début, je veux dire, on abandonne Chihiro à la gestion de ce monstre devant qui tout le monde se bouche le nez. En fait, on abandonne la petite dernière en lui disant « démerde-toi parce que nous, on n'ose pas le faire, il sent beaucoup trop mauvais ». Finalement, comment ils arrivent à libérer le monstre de sa montagne de détritus en tirant tous sur la même corde, en se rendant compte qu'évidemment, l'union fait la force et que c'est du collectif, du fait que chacun travaille pour l'autre, qu'émanent des situations vertueuses. Alors que nous sommes plutôt dans un univers où règne le chacun pour soi et l'appât du gain. On est toujours, rappelez-vous, le climat changeant, où dès que l'or apparaît, on oublie qu'on a effectué une mission vertueuse et chacun va ramasser sa petite pépite. Pas Chihiro. Chihiro, évidemment, absorbe et prend acte de la leçon qu'elle vient de subir. Enfin, pas de subir, plutôt dont elle bénéficie. Et donc, leçon écologique, leçon de mise en garde autour de notre environnement, sachons préserver les choses, ne cédons pas à des élans de surenchère. Mais il y a aussi cette idée très belle, je trouve, que si ce dieu vient ici à ce moment-là, c'est qu'il vient se ressourcer dans le dernier lieu où on croit encore à lui, où on peut encore l'identifier comme dieu. L'idée que les bains, les thermes, sont un peu cette marge où viennent se réfugier des divinités en lesquelles plus personne ne croit, puisqu'elles ont été en fait remplacées par cette autre divinité toute puissante qui est celle de l'argent, qui est celle de l'or. Évidemment, ici, l'argent est métaphorisé par l'or deux fois. Hein. C'est pour ça que je vous montre un petit peu ces deux séquences. C'est que les personnages sont assez proches par leur gigantisme, mais ils sont proches aussi par leur rapport à l'or. Le dieu de la rivière rétribue par de l'or. Bon. Mais là, le deuxième, son visage, il a un rapport beaucoup plus toxique et pervers à l'or. L'or est une monnaie d'échange pour s'acheter ce qui lui manque. Son visage, le personnage glouton que vous avez découvert ensuite, vous savez, avec son masque blanc, qui finit par littéralement vomir tous ceux qu'il avait absorbés, son visage, en fait, il a un rapport compulsif à son monde. Il absorbe tout, il mange tout. Il est l'envers de boulimie et de gigantisme de Chihiro qui, elle, au contraire, au fur et à mesure de son aventure, apprend en modestie, gagne en bravoure, en solidité, en intégrité, en fait. Elle est la seule du film à refuser son or. Et c'est ça qui est très beau. C'est que Miyazaki, peu à peu, nous achemine vers cette leçon-là. Qu'en vérité, bien sûr que Chihiro, de petite fille géniarde et pleurnicharde, apprend quelque chose. Et bien sûr qu'elle devient, à sa manière, une héroïne du cinéma de Miyazaki, une des Amazones du cinéma de Miyazaki. Mais ce qui est très beau dans Chihiro, et c'est peut-être ce qui explique que c'est le plus populaire de tous les films de Miyazaki, c'est qu'elle n'est pas héroïne parce qu'elle serait la plus forte ou la plus puissante, parce qu'elle serait la plus brave ou la plus habile, parce qu'elle serait une espèce de justicière, pas du tout. Elle est une héroïne d'être restée la plus intègre à elle-même dans un monde soumis au changement et aux métamorphoses, et donc à la précarité et au manque. Son visage, c'est d'abord un personnage qui est caractérisé par l'envie, par l'absorption compulsive de ce qui lui manque. Il n'est que du manque et de l'envie. Il n'est aussi que de l'apathie. Et il n'est que de l'incompétence. Il n'a aucun autre intérêt que celui de s'imposer et de proliférer. Il est un peu, et je pense qu'on peut s'autoriser à dire ici, entre nous, entre adultes, hein, bien sûr, peut-être pas aller jusque-là avec les enfants, mais il est un peu, vous savez, ce qui permet à ce film d'entrer dans peut-être quand même le genre de la satire sociale. On est quand même dans une forme de satire ici. On parle d'une société qui, à l'extrême, devient un peu à l'image de ce personnage-là, boulimique, qui n'est plus que accroissement irraisonné, perte du sens de la mesure et perte surtout de son identité. La grande différence entre son visage et Chihiro, c'est que Chihiro sait ce qu'elle est et ce qu'elle veut. Elle veut sauver son ami, elle répond à une mission. Elle est fidèle à sa mission et elle est fidèle à elle-même. Son visage ne sait pas ce qu'il veut. Et d'ailleurs, son orgie est un peu à l'image de cette indécision. Et d'ailleurs, si on veut même un peu aller plus loin, je pense qu'il y a une critique. La scène est... Bon, ça, on se le dit entre adultes, mais je pense que Miyazaki va très très loin quand même dans la critique sociale. Je pense qu'il pointe ici un caractère, je pense même un peu stéréotypé, mais qui doit avoir une réalité, vous savez, de ce qu'on assimile dans les comportements un peu d'un extrême à l'autre chez les Japonais. Vous savez, cette espèce d'extrême discipline qui ensuite va se traduire par un extrême relâchement dans des activités, bon bah... Disons que sous sa forme la plus inoffensive, c'est le karaoké, et sous sa forme la moins inoffensive, ça peut être d'autres choses, quoi, d'autres formes d'exutoire. Et je pense que là, il y a quand même la métaphore de quelque chose. Je ne sais pas si vous avez capté le début de la séquence, mais on pousse Chihiro, qui est une enfant, dans une pièce avec quelqu'un qui est quand même... qui se caractérise avec une voix d'homme et qui vient de tout manger, quoi. Donc il y a un truc, je pense qu'il y a une forme de la part de Miyazaki, il est beaucoup moins... On va loin dans la critique sociale. Mais je pense que c'est ce qui fait que ça marche auprès des enfants et des jeunes, c'est qu'ils sentent que quelqu'un, depuis le conte pour enfants, le conte moral, leur parle pour de vrai, leur parle comme à des vrais individus. Miyazaki croit vraiment que les enfants sont ceux qui vont nous éclairer, nous, les adultes. Il pense vraiment que c'est par les enfants que les adultes apprennent. Miyazaki appartient vraiment à cette catégorie de cinéastes qui pensent que l'enfant, c'est pas un adulte en devenir. L'enfant, c'est plus que nous. En fait, c'est plus qu'un adulte, c'est nous qui avons régressé depuis l'enfance. Parce qu'il considère que les enfants voient plus, les enfants comprennent plus. Pourquoi ? Tout simplement parce que les enfants sont, bien sûr, l'observation du réel, et ils sont en prise avec le réel comme nous, mais ils ont ce pouvoir supplémentaire qui est de le dédoubler par l'imaginaire. Miyazaki pense que la voyance, le pouvoir de voyant des enfants, c'est qu'ils ont l'imaginaire, que nous avons perdu en tant qu'adultes. Pas tous, hein, Miyazaki n'a pas perdu son imaginaire, il a su garder son âme d'enfant. Mais c'est là que Miyazaki, je pense, s'adresse aux enfants. Il leur fait confiance, dans la capacité à saisir un message parfois vraiment abrasif, parfois profond, parfois socialement un peu subversif, et en même temps à les satisfaire sur le spectacle. On est quand même quelque chose qui est extrêmement généreux graphiquement, extrêmement généreux narrativement, et qui atteint même des intensités dramatiques qu'on ne trouve pas dans d'autres fictions pour enfants. Et ce qui est très beau, c'est que cette morale de la modération, de l'humilité, qui est évidemment celle du personnage, le film lui-même va finir là-dessus. Là, vous êtes sur un moment de pic dramatique. Vous êtes un peu dans le point d'orgue, mais le vrai point d'orgue, il arrive juste après. C'est-à-dire que là, vous avez une course-poursuite, très burlesque, hein, la course-poursuite, c'est un motif du cinéma burlesque, très du cinéma des origines, avec un personnage, je vous disais, qui est presque d'un burlesque rabelaisien, comme ça, qui absorbe tout. Avant, on avait cette espèce de dieu putride qui était une masse excrémentielle. On est sur quelque chose de très rabelais, très gargantuesque. Et juste après, ça va être nuancé par son envers absolu de contemplation. Juste après, vous avez une très belle scène que je n'ai pas le temps de vous montrer, mais je vous la décris, où en fait, le dieu sans visage vomit toutes les personnes qu'il a absorbées, continue de suivre Chihiro, qui elle, en fait, sur les conseils de personnages, va chez la jumelle de Yubaba, la jumelle de la sorcière, qui habite en fait très très loin de cette industrie, très loin de cette usine, et elle prend un tramway. Elle monte dans le tramway qui est peuplé de un peu de spectres, comme ceux que vous avez vus apparaître au début, qui descendent chacun à leur tour du tramway, et c'est tout. C'est tout ce qui se passe pendant 5 minutes d'une très belle scène, qui était d'ailleurs celle que préférait Miyazaki de tout Chihiro. Il disait qu'il était d'abord fier de cette scène. Et en fait, ce qui est très beau, c'est que Chihiro est dans un... Toute la tension du film redescend. Le dieu sans visage ne poursuit plus Chihiro, il est juste à côté d'elle, il s'est purgé de tout ce qu'il avait, de toute sa surconsommation en fait. Et puis c'est un pur moment de contemplation où d'ailleurs le style de l'animation change. On rentre dans des tableaux pastels où on voit des espèces de paysages à la croisée du balnéaire et de la campagne. Et on comprend qu'en fait ici la rêverie se mélange aux propres souvenirs de Miyazaki qui bien sûr nous achemine et achemine même l'énergie, le rythme de son film vers cette espèce de modération et ce retour à l'essence et l'identité profonde de ce que lui considère comme étant ressourçant, à savoir il nous amène vers un autre lieu du conte de fées, il va dans une espèce de petite chaumière où il y a donc une sorcière qui n'en est pas une, et dans laquelle les personnages vont se retrouver, et d'ailleurs son visage va être adopté et va trouver sa place aux côtés de justement cette jumelle de la sorcière, il va trouver sa place et son utilité. Et c'est justement évidemment toute la morale du conte de Chihiro qui est de celle de savoir trouver sa place et son utilité dans une société où l'entraide et savoir qui l'on est de manière intègre nous permet de rester bien sûr soi-même. C'est toute la morale de Chihiro et c'est très beau de voir que dans ce qui devrait être en fait le point d'orgue du film, le climax comme disent les Américains, là où dans un Disney vous auriez eu la bataille finale, je vous dis une bêtise, de la bête dans La Belle et la Bête avec, vous savez, le méchant qui vient du village de Belle, où on est littéralement au point d'orgue, au sommet du château, où la bête va tomber, tout ça. Lui, Miyazaki, remplace ça par une scène très contemplative. Comme si, une dernière fois, il s'agissait de jouer avec les conventions du conte et du film d'animation occidental. Une dernière fois, changer et se soumettre au rythme changeant, au climat versatile de son univers à lui. Chihiro vraiment nous amène à ça, à tout un conte autour de l'identité et de la préservation de son intégrité, mais évidemment de l'intégrité de son imaginaire. Ce qui ne veut pas dire, une fois encore, retourner de manière un peu rétrograde à ce que l'on était avant ou à des cultures préexistantes. Miyazaki a un rapport très, alors c'est un gros mot, mais je vous le dis, il a un rapport très syncrétique. Le syncrétisme, vous savez, c'était quand on parle d'une spiritualité qui absorbe ou qui s'inspire de tout un tas de spiritualités pour faire la sienne propre. D'un point de vue imaginaire, le geste de Miyazaki, c'est exactement ça. Il va aller puiser à l'imaginaire de Disney, à l'imaginaire des contes européens, il va aller puiser bien sûr dans sa propre culture japonaise, au manga, à l'histoire du manga, pour créer son propre univers à lui. Et pour dialoguer avec Disney, pour dialoguer avec tout cet héritage-là. Je pense que c'est vraiment ce que nous raconte Chihiro. Chihiro est un film, Chihiro Tosen, où le personnage n'aura pas oublié qui elle était. Et je pense que c'est vraiment la grande règle générale du cinéma de Miyazaki, c'est de ne jamais oublier qui l'on est. Et vous allez voir que, de manière complètement différente, le dialogue implicite, voire même explicite là, avec Disney, est une règle générale du cinéma de Miyazaki. Et je vais vous le montrer avec Ponyo. Univers complètement différent, film en apparence qui ne s'adresse pas du tout au même public, et c'est plutôt vrai. Ponyo est un film pour enfants, exactement comme Miyazaki en avait déjà fait deux avant. Un que vous connaissez tous, je pense, Totoro, qui est plutôt fait pour des plus jeunes. Et Kiki la petite sorcière, qui était aussi pensé pour un public plus jeune. C'est très important ça, cette perception, je fais un écart sur le manga, ça vient vraiment de la culture manga. Le manga a vraiment sectorisé des publics auxquels on s'adresse. Tout part plutôt du public des jeunes garçons. Typiquement, le manga le plus connu, et d'ailleurs qui a une sale réputation comme Dragon Ball Z, avec des combats partout et des personnages très très puissants, ça c'est le manga qui vend le plus, qui est adressé aux jeunes garçons. Mais il y a aussi des mangas pour les jeunes filles, il y a des mangas pour les adolescentes, il y a des mangas pour les adolescents, des mangas pour adultes et des mangas pour enfants. Miyazaki, en un sens, répond un petit peu à ces attentes-là du marché. Sauf que vous allez voir que dans un film pour enfants, Miyazaki s'adresse évidemment, et c'est ce qui fait la marque des plus grands conteurs, à tous les publics possibles, y compris à nous, les adultes. Et Ponyo n'échappe absolument pas à cette règle. Et à cette règle que Miyazaki, on en est à son avant-dernier film, il a 75 ans passé, Miyazaki commence à parfaitement prendre conscience de sa place dans l'industrie, mais aussi dans l'histoire du cinéma, et qu'il va dialoguer de manière de plus en plus frontale avec Disney. Je vais vous montrer l'ouverture de Ponyo, le tout début.